Alors ami, bonsoir. Eh bien, ce soir, nous allons écouter la conférence faite par une de nos étudiantes sur karma et le libre arbitre. Avant d'écouter la conférence, nous allons faire une courte lecture. Lorsque les événements surviennent, nous n'avons plus le pouvoir de les arrêter. Nous ne pouvons rien contre le karma qui se présente et qui est l'effet des causes que nous avons semées. Il faut accepter l'événement. Mais nous pouvons exercer notre libre arbitre, c'est-à-dire que nous pouvons choisir le comportement que nous aurons face à l'événement. Nous pouvons, selon le cas, nous laisser écraser par l'angoisse ou devenir fous de joie ou prendre du recul et chercher à exploiter efficacement et intelligemment la situation qui nous est imposée. Malheureusement, dans la majorité des cas, nous réagissons automatiquement. Il faut donc apprendre à se libérer de ces automatismes. Cela demande une vigilance soutenue. C'est à ce prix que l'homme fait vraiment usage de son libre arbitre en s'engageant dans les actions réellement auto-induites et auto-déterminées. La véritable liberté suppose que l'on reconnaisse de façon lucide les diverses influences et contraintes qui nous sollicitent, désir de la personnalité, influence du monde extérieur, aspiration et suggestion de la conscience, et que l'on choisisse dans cet ensemble celle seule auquel on obéira, coûte que coûte. La responsabilité individuelle s'étend partout où peuvent s'étendre les effets de la pensée, c'est-à-dire dans l'univers entier. D'où la nécessité du contrôle des pensées, des émotions et des désirs dont nous sommes responsables. On pourrait dire que l'un des buts de notre évolution est de faire de nous des êtres entièrement conscients de leurs responsabilités sur tous les plans de leur être. L'individu ne peut pas plus se séparer de l'humanité que l'humanité de l'individu. La loi de karma s'applique également à tous, quoique tous ne soient pas également développés. Celui qui contribue au développement de ses semblables et les aide à accomplir leur karma s'acquitte strictement du sien propre. Par ses actions, il a la faculté de rendre plus pénible ou plus facile à l'humanité l'accession au plan suivant et plus élevé de l'être. Voilà, place à la conférence.
Alors Ami, souvent on constate que dans la vie de tous les jours, on n'est pas vraiment maître de la situation. Et même les événements qui nous arrivent, on a l'impression que on les subit. Et pourtant on a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est l'apanage de l'homme. Nous sommes soit conscients, on choisit volontairement de faire telle ou telle chose, donc ça veut bien dire qu'on a ce libre arbitre. Mais en fait, on s'aperçoit que quelquefois, on est poussé à faire une action, alors que si on avait réfléchi, on n'aurait certainement pas agi de cette façon. C'est là qu'on voit qu'il doit y avoir une corrélation entre déterminisme et libre arbitre. Et c'est tout l'objet de notre conférence de ce soir. Donc, le mot karma, en fait, c'est un mot sanskrit qui veut dire action, mais action dans son sens le plus absolu, c'est-à-dire l'action avec toutes les conséquences qui découlent de cette action. Et le mot karma, la notion de karma, en fait, elle a été connue au 19e siècle, à la fin du 19e siècle en Occident, grâce au théosophe précisément, grâce à Madame Blavatsky qui l'a fait connaître. Et elle est maintenant acceptée d'une façon commune par les Occidentaux, bien que la notion ne soit pas tout à fait juste dans le mental des Occidentaux. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu erronées, il y a des superstitions par rapport à karma, puis d'une façon générale, quand on pense à karma, on pense à fatalité. Mais enfin, il est entré dans nos dictionnaires, dans le courant du XXe siècle, et il est complètement accepté maintenant. C'est une notion qui était connue bien avant le XIXe siècle, donc par les orientaux, et c'est une notion en fait qui est connue, on va dire, depuis l'aube des temps, par ceux qui avaient la connaissance des choses, des lois de la nature. Alors, il faut savoir qu'en Occident, par contre, on est largement influencé par la pensée chrétienne qui nous dit que, enfin, en tout cas, les églises affirment que Dieu crée une âme à chaque naissance. Alors là, on est tout à fait surpris parce qu'on ne voit pas où est la justice dans ce cas-là. Parce qu'on sait très bien que, une âme va être créée et elle va être placée dans une famille où elle va pouvoir se développer d'une façon tout à fait harmonieuse, alors qu'une autre âme va être placée dans des conditions déplorables où elle sera peut-être massacrée. Et ça, on le savait d'avance. Et Dieu, qui est omniscient, aurait dû savoir ça. Comment peut-il, à ce moment-là, en toute justice, placer cette âme dans des conditions pareilles? Donc là, on ne comprend pas très bien. De même qu'on se demande où est la règle d'impartialité quand il est dit que par décret de Dieu et pour la manifestation de sa gloire, il y a des hommes et des anges prédestinés à la vie éternelle et d'autres assignés d'avance à la mort éternelle. Là aussi, c'est pareil. Où est la justice? On ne comprend pas les choses. Et la religion chrétienne dit que grâce à Jésus qui est mort sur la croix pour nous, celui qui se repentirait alors qu'il aurait fait des exactions toute sa vie, eh bien, ne va pas aller en enfer parce que il serait pardonné, il serait exaucé, juste parce qu'il aurait compris qu'il a fait mal et qu'il se repentirait. Là aussi, on ne comprend pas très bien parce que toutes les actions qu'il a faites, toutes les exactions qu'il a faites, les conséquences, eh bien, elles n'ont pas disparu. Lui, il peut être exaucé, mais tout reste. Et on va prendre simplement l'exemple d'un homme qui est très impulsif et coléreux. Et voilà que, par un accès de colère, il tue quelqu'un. Alors, il est jugé, on reconnaît qu'il n'a pas prémédité son acte, donc il va aller en prison, peut-être moins longtemps que si ça avait été un criminel endurci. Et voilà qu'en prison, il prend conscience de son acte, de la gravité des choses. Et vraiment, il regrette, et à tel point qu'il va changer, il va faire un travail sur lui-même. Alors là, nous disons bravo. Nous disons bravo parce que peu de prisonniers arrivent à ce point de réflexion et puis arrivent à se changer comme ça. Mais malheureusement, ça ne va pas changer les choses pour la famille de celui qui a été tué, la souffrance ressentie. Si cet homme avait par exemple une famille, une femme, des enfants, eh bien la souffrance des enfants qui vont se retrouver sans père, la femme qui va se retrouver peut-être obligée d'aller travailler pour nourrir sa famille. Eh bien, tout ça, ce sont des conséquences, des souffrances et qui seront jamais effacées. Et même pour sa famille à lui, non seulement il y aura des problèmes pécuniaires, certainement matériels, mais en plus le déshonneur, la honte. Ça, c'est toutes des conséquences qui sont jamais effacées. Il faut savoir que les conséquences ne sont jamais effacées. Et en fait, le mal, eh bien, c'est une infraction aux lois de l'harmonie. Et c'est celui qui a causé cette disharmonie qui va devoir réparer les choses. Mais il y a des choses, on ne peut pas les réparer, on ne peut pas faire qu'un homme tout d'un coup qui était mort, tout d'un coup soit à nouveau vivant. Donc ces personnes qui font comme ça, ou quiconque qui agit et qui perturbe l'harmonie, eh bien elle devra rétablir l'harmonie quand les circonstances seront précisément là, bien placées pour qu'ils puissent rétablir l'harmonie. Donc, il faut comprendre que karma, c'est quand même quelque chose qui va très loin et c'est pas parce qu'on se repent que les choses vont se rétablir d'elles-mêmes toutes seules. Donc on comprend bien qu'il y a des conséquences et qu'à partir du moment où il y a des conséquences, eh bien nous sommes responsables de ces conséquences et c'est celui qui a perturbé la situation qui devra rétablir lui-même l'équilibre. Alors donc avec la théosophie, la vision donc n'est pas la même du tout parce que il n'y a pas de Dieu anthropomorphe, la notion du Dieu extra-cosmique n'existe pas. Mais il y a ce qui est, n'est jamais manifesté. On l'appelle l'absolu. Ça représente, si vous voulez, l'aspect non-né, on va dire, l'aspect jamais manifesté de la nature. Et à partir de cet aspect, eh bien, il va y avoir la manifestation. Et ce principe divin absolu, c'est pour ainsi dire la potentialité de toute conscience. Et ce principe divin, en fait, il est indissociable du mental universel. Et le mental universel, on peut l'appeler aussi l'âme universelle, parce que, si vous voulez, la réalité, c'est à la fois esprit-matière ou esprit-substance. Il ne peut pas y avoir d'état de conscience, il n'y a pas un véhicule de conscience pour soutenir cet état de conscience. Eh bien, ce mental universel, c'est aussi ce qui est appelé le logos chez les Grecs. Et pour comprendre les choses d'un point de vue métaphysique, on va se servir d'un symbole, on va imaginer un soleil avec une multitude de rayons. Et nous sommes un rayon, et un rayon qui doit apprendre à se connaître à travers toute la manifestation, à travers tous les degrés de l'échelle de l'être. On va développer les pouvoirs de conscience pour apprendre à se connaître et pour retourner en pleine conscience dans cette conscience absolue, dans ce logo, si on veut. Et en fait, on va se rendre compte qu'il n'y a aucune différence entre les rayons. Deux rayons du soleil sont de la nature du soleil. Les deux rayons sont identiques en nature. Donc on comprend bien les choses. Mais la seule différence, c'est une différence d'éveil. Et l'éveil, il est dû à la capacité d'avoir emmagasiné des expériences. C'est l'expérience assimilée. Et on comprend bien aussi que l'expérience assimilée, ça ne peut pas se faire en une seule vie, bien évidemment. Hein, il a fallu d'abord passer par tous les degrés de la manifestation, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce n'est pas une seule vie, mais plusieurs vies. Et chaque vie, eh bien, nous sommes un épitomé de cette vie, c'est-à-dire que toute l'expérience assimilée représente la base d'une nouvelle vie quand on va se réincarner. Donc, avec ça, on comprend qu'il y a cette loi des cycles, hein, qui est partout dans la nature, la loi des cycles qui correspond à toute la manifestation. Un univers est soumis à cette loi des cycles parce qu'il va naître, s'épanouir, et puis après il va petit à petit se rétracter pour revenir à l'élément primordial. Donc ça, c'est tout un grand cycle de l'univers. Mais cet univers qui est constitué d'une multitude de vies, d'une multitude d'étincelles qui correspondent au tissu de cet univers, à différents plans de la nature d'ailleurs, eh bien, tout ce qui est dans cette manifestation est soumis aussi à des cycles plus ou moins grands. On voit le cycle du jour, de la nuit, de la veille, du sommeil donc, mais en même temps de la vie qui est beaucoup plus grand et de la mort. Ces cycles représentent une alternance entre l'activité, donc on fait des expériences de conscience, on agit, on interagit sur le monde avec les autres, et après, il va y avoir une période de repos. Et durant cette période de repos, il y a assimilation, et quand on repart avec, sur un nouveau jour ou une nouvelle vie, eh bien, c'est avec un plus parce qu'on aura assimilé l'ensemble de toute l'expérience passée. Et c'est comme ça que finalement, ce rayon finit par apprendre à se connaître, qu'on va devenir à un moment donné soi conscient, c'est-à-dire conscient de nous-mêmes. Et puis, cette soi conscience va se dilater au niveau de la conscience du tout, c'est-à-dire de cette grande conscience une. Et quand on va retourner donc dans ce soleil, on aura déployé un maximum de pouvoir de conscience, mais dans un prochain univers, on aura encore un maximum de pouvoir de conscience à déployer. Et ainsi va l'évolution, donc c'est sans fin. Hein. Donc on voit donc ces deux lois, la loi de karma, en fait elle va rythmer la loi des cycles, hein, C'est le karma qui va faire que, c'est-à-dire les impulsions qui ont été générées, les causes qui ont été générées, qui vont faire que les cycles auront telle et telle durée. Et donc, cette loi de karma, en fait, donc loi de cause et d'effet, hein, cette loi, elle est immuable. Alors que si on reprend l'idée du Dieu, ses décisions vont être influencées par ses émotions, parce que le Dieu va se mettre en colère. Il se met en colère, c'est un surêtre, mais enfin, il est soumis à ses émotions, donc il est arbitraire. Alors que la loi de karma, non, elle est immuable. Donc d'où sa justice infaillible. Et c'est un redresseur de l'injustice humaine. C'est aussi un inflexible réparateur de tort. C'est la loi de rétributive qui dispense avec une justice infaillible tout ce qui est dû à l'homme. Et donc, cette loi de karma, il faut bien voir qu'elle ne punit pas ni ne récompense, alors qu'un être, si tu étais un être, eh bien, il va poser un jugement par rapport à des faits, par rapport à des situations, mais par rapport à un ressenti surtout. Et donc, son jugement sera toujours relatif à lui-même, alors que la loi de karma, c'est une loi. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'elle punit ou elle récompense, mais elle redonne à chacun vraiment son propre dû. Donc, il faut vraiment la comprendre comme quelque chose de complètement impersonnel. Et elle, en fait, elle va toujours tendre à rétablir l'équilibre qui a été perturbé. Et en fait, on peut dire que cette loi non plus, elle ne crée rien elle-même. C'est l'homme qui crée des causes. Mais karma va ajuster les effets. Et cet ajustement, ce n'est pas un acte. C'est simplement la loi de rétribution qui fait que l'harmonie va être rétablie grâce à cette grande loi d'unité. Parce que nous sommes un tout et nous sommes un ensemble uni. Et c'est par rapport au fait que nous sommes cet ensemble uni qu'elle va rétablir les choses. Alors, quand on a dit ça, on peut simplement prendre l'exemple, un exemple tout bête, l'exemple d'une branche d'arbre. Si quelqu'un la plie violemment et que cette branche d'arbre casse le bras de la personne, on ne peut pas dire que c'est la faute de l'arbre qui a cassé le bras de la personne, mais qu'en fait c'est simplement l'acte irréfléchi de la personne qui a fait que son bras est cassé, que l'accident est survenu. C'est tout ça pour montrer qu'en fait l'action elle se situe au niveau de l'homme, mais pas au niveau du karma. Karma c'est une loi immuable, et elle n'agit pas. Alors ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que karma, en fait, il va s'appliquer sur tous les plans de la nature. Tout ce qui est manifesté, donc les plans de la nature et les plans qui concernent vraiment l'homme, hein, on peut dire bon, le plan physique, bien évidemment, mais le plan psychique, le plan mental, le plan spirituel. Et donc tout ça, ça va être soumis à la loi de karma, et donc le corps physique dépendra bien évidemment de la façon dont nous avons vécu antérieurement, etc., sur le plan physique. Ensuite, l'intelligence de l'homme, elle dépendra aussi. Ce sera vraiment les résultats de son karma passé, tout comme le plan moral, tout ça. Donc on voit que karma va comment gouverner tous les plans de la nature, tous les plans de la vie de l'homme. Et en fait aussi, on verra qu'elle va gouverner bien évidemment le rang social, le sexe, les conditions qu'on va subir pendant les années irresponsables de l'enfance. Ensuite, donc les particularités du corps, les maladies aussi, bien sûr. Hein. C'est pas un hasard quand on a certaines maladies ou d'autres, ou quand on a des handicaps, c'est jamais un hasard. Et évidemment, elle va déterminer l'ensemble de l'hérédité. L'hérédité sera exactement en accord avec ce qu'il est vraiment profondément. Donc, c'est aussi soumis à la loi de karma. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que karma n'est vraiment sans égard pour les personnes. Par exemple, le roi ou le simple gueux, on va dire, ils sont soumis aussi à la loi de karma, comme le riche ou le pauvre. Là, on est tous sur le même pied d'égalité. n'y a pas du tout de possibilité de changer quoi que ce soit par rapport vraiment aux événements karmiques qui doivent arriver. Alors, on ne pourra pas non plus le détourner, karma, par des prières ou par des actes. On peut modifier certaines choses, on peut surajouter des effets, on peut aggraver les choses ou au contraire les alléger. Dans notre exemple tout à l'heure de cet être qui a tué un autre individu parce qu'il était très colérique, eh bien, quand il est en prison, qu'il prend vraiment conscience des choses et qu'il change vraiment, et quand il va sortir, s'il décide d'aider la veuve avec les enfants, ou alors s'il décide, par exemple, d'aller faire des visites dans les prisons pour expliquer que c'est vraiment grave de faire ce qu'il a fait lui, qu'il a pris conscience des choses, à ce moment-là, tout ça, ce sont des causes qui vont certainement alléger son karma futur. Mais n'empêche que ça ne va pas effacer les choses complètement. Et donc, il sera quand même soumis à certaines causes karmiques qui auront une relation avec ce qu'il a fait ultérieurement. Alors, il faut savoir que Jésus disait, c'est avec la mesure dont vous mesurez que vous serez mesuré. Ça renvoie au fait que la façon dont on considère les autres, eh bien, plus tard, dans une autre vie, ou même après, les autres nous considéreront aussi de la même façon, ou nous traiteront de la même façon. En fait, ça nous renvoie toujours à notre caractère et à changer quelque chose dans notre caractère. Alors, il faut savoir aussi que tout le bonheur qui peut nous arriver, tout le malheur qui peut nous arriver, trouve son origine en nous-mêmes. On a bien compris que la loi de karma, ce n'est pas une loi qui est extérieure, mais en fait, tout vient de nous-mêmes, elle est en nous, elle nous a formés, karma nous a formés quelque part, et donc elle est en nous. Et donc tout ce qui peut arriver trouve l'origine en nous-mêmes. En fait, souvent on a l'impression que les choses seraient mieux si les circonstances étaient différentes, ou alors, quand il nous arrive quelque chose, un problème avec quelqu'un, eh bien, souvent on a l'impression que c'est la faute de l'autre. Et en apparence, ça peut être la faute de l'autre, parce qu'il peut peut-être agir mal avec nous, effectivement. Mais comme on l'a vu, ça nous renvoie à notre caractère. Donc, et on peut dire aussi, par exemple, si on revient à l'exemple de notre prisonnier, eh bien, il peut toujours penser que c'est de la faute de ceux qui l'ont jugé, du tribunal, s'il est en prison. Effectivement, c'est une des causes, mais il faut chercher des causes beaucoup plus loin. Et là, c'est pareil. On a l'impression des fois qu'on tombe sur des os, entre guillemets, ou sur des gens qui sont peut-être malveillants, mais en fait, ça nous renvoie à des causes qui sont beaucoup plus lointaines. Et ça nous renvoie toujours à changer quelque chose en nous-mêmes. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est vraiment exactement ce qu'il nous faut. Les autres sont un peu le reflet de nous-mêmes, quelque part, la façon dont ils nous traitent, ça nous renvoie vraiment à nous-mêmes et ça va nous permettre de prendre conscience des choses et puis après de changer les choses. Alors maintenant, donc on voit bien que en fait, cette loi automatiquement revient à retendre l'équilibre qui est perturbé, c'est parce que donc en fait, on fait partie d'une grande unité, d'un grand ensemble. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est un rayon de ce soleil. Aujourd'hui, on se voit séparés parce qu'on est séparés apparemment sur le plan physique. Mais sur les plans intérieurs, on est complètement en union avec les autres. On est une grande unité, en fait. Il n'y a qu'un soleil, mais plusieurs rayons, ça c'est sûr. En fait, il faut voir que toutes nos pensées, toutes nos actions et tous nos désirs, parce qu'en fait il faut savoir que derrière les actions se trouve le désir, et bien nos pensées désirs influencent tout l'ensemble, et c'est ce qu'on va appeler le karma distributif, c'est-à-dire que l'interdépendance entre les individus, toute action va avoir une réaction sur les autres, une influence sur les autres, ça va créer ce qu'on appelle le karma distributif. Le karma distributif, c'est le karma qui est lié à la famille, à la nation. Et si on est né dans une famille particulière, dans une nation particulière, c'est un hasard. C'est parce qu'on a créé des affinités avec cette nation, cette famille. Et aujourd'hui, si par exemple avec la famille, si on est en accord ou si on ne dit rien quand une injustice se commet, une injustice verbale par exemple, et qu'on ne dit rien, eh bien en fait, on se fond avec la famille. On est responsable avec la famille. Le fait de rien dire, on est d'accord tacitement avec ce qui se passe. On ne fait pas intervenir notre sens de justice, de réflexion, pour dire non, là, attention, je ne suis pas d'accord. Et de même qu'au niveau d'une nation, si on ne dit rien, si on ne fait rien, si on laisse les choses faire mentalement, en pensée et en action, peut-être on ne pourra pas faire grand-chose, mais au moins en pensée, si on est d'accord avec ce qui se passe, eh bien on se coule dans le moule de l'ensemble. Et là, on sera entraîné avec la destinée générale de l'humanité. Il ne faut pas oublier qu'on a participé à la création de ce caractère national de la race ou de la nation dans laquelle on appartient, et on en est responsable. Ça veut dire que si on est responsable, ça veut dire qu'on a un rôle à jouer, à quelque chose à faire. Hein. Même simplement que de penser qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle chose, et même peut-être en parler, c'est déjà énorme, parce que ça a une influence sur l'ensemble. Donc, soit on se coule au moule, et finalement, ben, on est entraîné vers la déchéance peut-être de cette nation, soit on dit non, moi je ne suis pas d'accord, il faut faire attention au climat, il faut faire attention aux énergies, je ne suis pas d'accord avec cette montée du racisme, etc. Donc là, on peut intervenir. Alors, on a bien compris que finalement, on est quand même beaucoup déterminé par plein de choses, parce que nos actions sont à la fois le résultat du passé, hein, on voit bien, qu'on va agir des fois parce qu'on a été moulé d'une certaine façon, et donc on va agir spontanément. Donc il y a un sacré déterminisme qui nous pèse. Et là, on se demande alors à ce moment-là, le libre arbitre, eh bien, comment faire ? On n'a pas l'impression qu'il est bien actif dans l'homme. Et on a raison, quelque part. Alors donc, on a compris qu'avec la loi de karma, il n'y a pas de fatalisme. Hein, il n'y a pas de fatalisme pour la bonne raison que tout ce qui nous arrive, ce sont des causes qui ont été engendrées par nous-mêmes. On est responsable de ce qui nous arrive. Donc, pas de fatalisme. Mais par contre, aujourd'hui, avec les actions, avec nos pensées, avec tout ce qu'on peut faire, avec les paroles aussi qu'on peut dire, eh bien, on peut créer des nouvelles causes qui vont modifier évidemment nos conditions actuelles, peut-être que très légèrement, mais qui vont aussi surtout déterminer nos vies futures, notre vie prochaine. Donc c'est là où le libre arbitre va pouvoir intervenir. Mais le problème, c'est qu'on va se rendre compte que ce n'est pas si facile que ça. Et donc il va falloir commencer par prendre conscience des choses, prendre conscience que quand on agit, eh bien en fait, on agit souvent par habitude. C'est un petit peu un homme automatique qui agit, on répond du tac au tac. Donc on prend conscience de ça, et déjà le fait de prendre conscience de ça, ça veut dire qu'on prend du recul par rapport à l'homme automatique que l'on est. Donc c'est déjà un premier pas. Ensuite, il va falloir se rendre compte que quand on prend une décision par rapport à quelque chose qui arrive, eh bien, on a déjà des expériences passées, on a déjà vécu certaines souffrances, on a peut-être tiré certaines leçons, et à ce moment-là, quand on prend une décision, il faut prendre compte des leçons qu'on a pu tirer par le passé, en tout cas dans cette vie, parce qu'on s'en souvient. Hein. Quand on a reçu, qu'on s'est retrouvé plusieurs fois confronté à des gens désagréables, qui était impatient avec nous, eh bien, on va être plus patient avec les autres, on va en tirer des leçons. Donc là aussi, on commence à faire usage du libre-arbitre, hein, parce qu'on se rappelle des leçons passées, et là, on va pas faire la même chose aux autres. Hein. Là où on a souffert, on va pas faire la même chose. Et donc, il faudra aussi se rendre compte que, finalement, eh bien, quand on prend des décisions, ça va beaucoup dépendre aussi du sens éthique que nous avons. Hein. Mais le sens éthique, il faut savoir qu'il est déterminé aussi par rapport à la conception que nous avons de la vie, du sens de la vie. Et si on est le matérialiste, par exemple, qui croit qu'il n'a qu'une seule vie, qui croit que c'est le destin aveugle qui lui fait vivre telle et telle situation, eh bien, il va essayer coûte que coûte de se faire une place au soleil, quitte à marcher un petit peu sur les pieds des autres. Il va peut-être respecter les lois les lois de son pays, hein, mais peut-être qu'il va aussi essayer de les contourner ou de les détourner en sa faveur. Pourquoi? Parce que le matérialiste, il est ignorant des vérités, il est ignorant de la loi de karma, ignorant de la réincarnation. Donc on voit bien que c'est très important de comprendre ces deux concepts. Et donc l'ignorance nous amène à faire des choses, des erreurs, mais en même temps il faut savoir que c'est l'égoïsme qui nous pousse à agir mal. Donc il faut qu'on prenne conscience de ça. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure dans la lecture, on va faire des efforts auto-induits et auto-déterminés. On va décider qu'on ne va pas agir comme ça. On va vraiment le décider. Il y a quelque chose en nous qui nous pousse à faire ça, à dire, voilà, eh bien, moi, je n'agirai pas comme ça. C'est comme ça qu'on commence à vraiment faire usage du libre-arbitre. Et en faisant comme ça, eh bien, finalement, on va créer un nouveau courant de karma. On va finir par évacuer toutes les causes anciennes de l'ancien karma, petit à petit. On ne va pas recréer des causes similaires, les mêmes erreurs, en gros. Et on va créer un nouveau courant de karma. Et c'est comme ça que la page va se tourner petit à petit. Et c'est comme ça qu'on avance tout doucement sur le chemin de l'évolution, hein. Et donc, il va falloir... c'est vrai que petit à petit, on aura une vision beaucoup plus conforme à la réalité vraie, hein, ce qui va nous permettre d'avoir des actions encore plus justes. Et tout en nous acquittant des dettes du passé, eh bien, on va créer des causes qui seront vraiment en conformité avec la loi, la vraie loi de l'évolution, avec la volonté générale de la nature. Et on va petit à petit restaurer la fraternité à tous les niveaux de la nature, cette fraternité qui est mise à mal partout finalement dans la nature. Alors maintenant, donc on a compris que la connaissance de karma et de la réincarnation, eh bien ça va nous ramener à notre responsabilité. À notre responsabilité, parce que en agissant, c'est vrai que nous créons des causes qui vont influencer notre avenir. Mais ce qui est pire, c'est que ça va influencer aussi l'avenir des autres. Hein, on l'a compris avec cette idée d'interdépendance. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment nécessité de changer quelque chose parce que pour être, on est des hommes responsables. Donc, au lieu d'agir de façon mauvaise et finalement d'entraîner l'ensemble de l'humanité ou l'ensemble de notre famille ou l'ensemble de la nation dans laquelle on appartient, de les entraîner vers le bas, il vaudra mieux qu'on les entraîne vers le haut. On a le sens de cette responsabilité, donc il va falloir les entraîner vers le haut. Alors, maintenant, on comprend bien que si on ne rajoute pas des mauvaises causes à notre karma, aux événements qui viennent, si on a vraiment pris conscience des choses et qu'on commence à vraiment maîtriser un petit peu sa nature et vraiment à ressentir le bien, le juste et à vouloir le propager dans toutes nos actions, eh bien, en fait, on va se rendre compte que quand on va souffrir de quelque chose, eh bien, ça va éveiller en nous la reconnaissance de ce qui est mal, tout simplement. Comme on l'a dit tout à l'heure, si les gens sont impatients avec nous et nous bousculent un peu, on va souffrir. Si les gens sont égoïstes avec nous, on a quelqu'un d'égoïste avec nous, on va souffrir de cet égoïsme, on va le reconnaître, et à ce moment-là, eh bien, on va faire en sorte de n'être plus égoïste, parce que en fait, il faut être juste, il n'y a pas une justice pour les autres et une justice pour moi. Moi, je suis différente, donc j'ai droit à ça, les autres, bah, on s'en fiche, non, pas du tout. La justice, c'est la même pour tout le monde. Donc, il faut être en accord avec... d'une façon très honnête avec soi-même, et du coup, quand on souffre de quelque chose, eh bien, qu'on reconnaît que c'est mal, eh bien, à ce moment-là, ça nous renvoie à nous-mêmes et à changer ce qui en nous n'est pas vraiment en harmonie avec ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est beau, avec l'amour, avec l'amitié, la fraternité avec les autres. Donc, on a donc pas mal déjà vu la loi de karma, compris les choses, on a compris comment on va manifester un peu plus du libre arbitre. Et maintenant, on va essayer d'entrer un petit peu plus profondément dans la compréhension de la loi de karma. On va dire qu'on va un petit peu effleurer ou pénétrer légèrement dans les mystères de la nature. Alors, il faut savoir que si un homme mobilise une plus grande somme d'énergie sur un plan plutôt qu'un autre, eh bien, le karma de cet homme va se manifester sur le plan sur lequel l'énergie est manifestée. Ça veut dire que, par exemple, si un homme a des tendances plutôt sur les animaux, on va dire, ou alors que vraiment il n'y a que ses sens physiques qui sont intéressants pour lui, donc il va en fait créer un centre d'attraction uniquement au niveau physique. Mettons que ce soit un être qui n'est pas du tout, qui ne réfléchit pas, qui n'essaye pas de trouver le beau, enfin essayer d'améliorer les choses, qui ne réfléchit pas par exemple sur les conséquences de ses actes, qui ne pense pas aux sentiments des autres. C'est un être qui est uniquement basé sur ses sens inférieurs et donc qui veut les nourrir, qui veut jouir de la vie. Eh bien, cet être va créer une sorte de feu, un centre d'attraction puissant à ce niveau-là. Et il faut savoir que toutes les énergies qui étaient sur les plans supérieurs vont être focalisées sur les plans inférieurs. Donc, elles vont être, tous les plans supérieurs vont être vidés de ces énergies. Et ce qui veut dire que les énergies qui auraient servi à renforcer sa nature morale, à épanouir son sens spirituel éventuellement, eh bien toutes ces énergies, elles sont distribuées sur le plan physique et en fait tout le karma de cet individu va se déployer à ce niveau. En fait, cet être, sa vie est carrément que centrée sur le plan de la matérialité, le plan physique, l'assouvissement des sens physiques. Et dans la Bhagavad Gita, il est dit, quiconque s'inquiète du désir des sens, y attache son intérêt. De cet attachement naît la passion, de la passion la colère, de la colère l'illusion, de l'illusion la perte de la mémoire, de la perte de la mémoire la perte du discernement et de la perte du discernement la perte de tout. Et donc c'est la voie qui mène à la folie. Et bien la folie de cet exemple, de cet homme qui a tué comme ça, après sous un accès de colère. Hein. On voit combien c'est vraiment la bestialité, l'homme qui devient pire qu'un animal parce qu'il va se servir de ses principes supérieurs pour en profiter encore plus de sa vie animale. Donc c'est une régression dans la nature. Hein. Alors maintenant, on va pas rester sur cet aspect négatif. Mais on va au contraire voir celui qui, au contraire, est plutôt axé sur sa nature supérieure. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cet être? Eh bien, là, le centre d'attraction se situera au niveau supérieur. On est bien d'accord? Mais si jamais il perd tout intérêt pour les objets des sens, eh bien, dans ce cas-là, il faut savoir que le karma en attente, qui devait servir à satisfaire les besoins des sens physiques, puisque cet être a perdu, est en train de perdre vraiment toutes les attractions des sens, eh bien ce karma ne trouvera plus de base sur laquelle se manifester sur le plan physique. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, ça va être sur un plan supérieur que ce karma va finir par s'épuiser. Et si c'est un être sincère qui vraiment prend une voie où il a compris qu'il faut se détacher de tous ses désirs des sens pour se libérer, eh bien à ce moment-là, eh bien ces effets vont petit à petit s'éteindre et à ce moment-là, eh bien c'est un nouveau karma qui va s'ouvrir, c'est une nouvelle voie qui va s'ouvrir pour lui. Hein. Dans un cas comme ça, il ne faut pas croire que il n'est pas confronté aux conséquences de ses actes, bien sûr que si. On a dit la loi de karma, elle est immuable, donc il y a bien des conséquences aux actes. Mais lui, il a rajouté des causes qui font que les choses vont s'élever. C'est une façon de s'élever, hein, on a bien compris. Bon, ça c'est vraiment un cas quand même aussi exceptionnel, parce que pour virer comme ça totalement, enfin, faut quand même qu'il ait fait un travail dans les vies intérieures et puis qu'à ce moment-là, il reprenne sur cette ligne d'évolution. Mais enfin, on voit comment le karma peut s'épuiser d'une autre façon que sur le plan physique. Hein. Et à ce moment-là, comme il va continuer à créer des causes, mais à un niveau supérieur, eh bien, il entre dans ce nouveau courant qui l'amènera vers un éveil toujours plus grand et vers un épanouissement de sa nature spirituelle. Alors maintenant, il y a une chose qui est très importante aussi à comprendre, c'est que, pour arriver à ce stade, cet homme, cet être qui a finalement focalise tous ses désirs sur le plan spirituel, et c'est là qu'on voit que finalement karma, tout se joue au niveau du désir, eh bien, en fait, on se rend compte que cet être qui finalement se nourrit des désirs de nature spirituelle, eh bien, il va finir par oublier, on va dire, toute l'attraction de ses sens inférieurs. Hein. Et il faut savoir qu'on ne peut pas être attaché à une chose à laquelle on ne pense pas. Hein. Et c'est là la clé du problème aussi. Parce que, et c'est là aussi le nœud du mental. Parce que si on ne pense pas à certaines choses, eh bien, il ne va plus y avoir attraction sur ces choses. Et c'est là que l'âme pourra vraiment se libérer. Et à ce propos, il faut parler d'une chose très importante. C'est pour celui qui nourrit des remords pour avoir fait telle ou telle chose dans la vie. Eh bien, c'est là qu'on voit combien il est important de ne jamais ressasser ce qu'on a pu faire comme erreur. Les erreurs, c'est le passé. On ne peut pas y revenir dessus. Donc, à quoi ça sert d'y penser? Ça va être un nœud pour le mental. Ça va, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va comme enserrer l'âme de tout un réseau de pensées. Et cet être, s'il a des aspirations, eh bien, ces aspirations, elles ne pourront pas s'épanouir. Elles vont trouver des entraves à cause de ce mental qui n'arrête pas de ressasser ou qui ressasse des mauvaises idées. Donc, pour se détacher de ces mauvaises pensées, de ces péchés, il faut vraiment renoncer ou se détacher complètement de toutes ces idées mauvaises. Et donc, là aussi, on peut le faire grâce à la volonté, grâce à des efforts autodéterminés, donc grâce à son libre arbitre. Hein. Et il faut savoir que l'homme spirituel, ou qui est en voie d'être un homme spirituel, le sage, on va dire, celui qui a des actions sages, eh bien, il n'a pas de remords pour ses actions passées, peu importe, et il n'a pas non plus de... Il n'est pas fou de joie pour ce qui va lui arriver, ou il n'est pas inquiet pour ce qui va lui arriver, peu importe, il prend les choses telles qu'elles viennent. Parce qu'en fait, cet homme, il sait que chaque chose qui arrive dans sa vie, c'est une occasion de grandir, c'est une opportunité pour lui d'avancer un petit peu, encore un peu plus sur le chemin spirituel. Alors donc, amis, maintenant nous avons un petit peu vu le rapport qu'il y a entre déterminisme, libre arbitre, et donc on a bien compris, donc on ne peut pas échapper aux conséquences de ces actes, bien évidemment. Et en fait, l'homme a tendance à tourner dans une cage d'écureuil hein, s'il n'utilise pas son libre arbitre. Ça veut dire que, comme on a tous un karma en réserve qui arrive et qui est là, bah, la cage d'écureuil, si vous voulez, elle est là, bien évidemment. Donc on y est tous dedans, cette cage d'écureuil. Mais il faut savoir qu'elle a une porte et qu'on peut ouvrir cette porte. Et on l'ouvrira cette porte à partir du moment où on sortira de nos conceptions illusoires du monde et qu'on fera vraiment l'utilisation de la volonté et du libre arbitre. Alors, quand on a dit tout ça, en fait, il va falloir arriver petit à petit, grâce à notre libre arbitre, à arriver à maîtriser les forces inférieures de la nature, donc, pour accéder à la véritable connaissance et ensuite, finalement, renoncer à la grande récompense finale, qui est le nirvana, bien sûr, hein, pour demeurer près de l'humanité, parce que c'est comme ça que, finalement, en agissant pour le bien des autres, pour l'éveil de nos frères, qu'on ne créera plus de karma obstructif et qu'on avancera tous ensemble vers la libération de l'ensemble. Alors maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que si aujourd'hui on a l'impression que nos conditions sont difficiles, notre environnement il n'est pas comme on voudrait, notre entourage il est exigeant, il en veut toujours plus, les autres sont désagréables avec nous, eh bien tant mieux, parce qu'on se rend compte que c'est comme ça qu'on va grandir. C'est comme ça qu'on ne va pas se prélasser dans le bien-être, dans la satisfaction. Ça va nous secouer, nous déranger, ça va nous obliger à nous remettre en question. Et c'est comme ça qu'on va grandir. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que tout ce qui nous arrive de désagréable, c'est finalement le mieux qui peut nous arriver, parce que ce sont nos conditions idéales pour nous-mêmes, pour grandir, pour nous épanouir, pour avancer un petit peu sur le chemin. Alors quand il nous arrive des choses un peu difficiles, eh bien on n'a qu'à dire, eh bien voilà, on est content, c'est ce qui doit nous arriver, et on est content parce qu'on va pouvoir avancer avec ces situations. Alors ensuite, si on prenait conscience des choses, si on se rendait compte que finalement on voit de la souffrance partout dans le monde, elle est universelle, on a l'impression que c'est quelque chose d'universel, tout le monde souffre. Et si on a compris cette loi de karma, bien évidemment, avec l'idée du libre arbitre, qu'on peut finalement prendre sa destinée en main, et si on a compris qu'on peut faire aussi quelque chose pour les autres, parce qu'on vit dans ce système où tout est en interaction, et si on a décidé de s'engager dans cette voie pour vraiment aider les autres, on se rendra très vite compte qu'il faut atteindre un certain état où on sera capable de comprendre pourquoi telle ou telle personne a un problème, quel est le pas qu'elle doit faire sur son chemin d'évolution. Si on a vraiment envie de l'aider, il faut simplement arriver à un certain stade d'éveil. Donc, ça doit nous, le fait de vouloir aider les autres, ça va nous obliger à s'engager dans cette voie d'éveil. Et avec ce motif de vouloir aider les autres. Et dans cet engagement, dans le silence de notre cœur, on pourra faire le vœu de décider de travailler pour l'humanité. Et quand on a compris que tout effort qui est fait dans le but d'élever de notre nature, puisqu'on entre dans une voie d'éveil, eh bien à ce moment-là, tous ces efforts vont servir à l'ensemble de l'humanité, puisqu'on est tous en interaction. Et il nous semble que c'est la meilleure voie pour finalement arriver à travailler, à lutter contre cette souffrance qui est universelle, et en même temps donc à rétablir la fraternité à tous les niveaux de la nature, aussi bien au niveau des hommes, mais aussi bien au niveau des animaux, au niveau des plantes qu'on ne respecte pas, de toute la nature. Voilà.